Et avec votre esprit. Notre Seigneur.
En ce temps-là, Jésus déclare : Moi, je suis le bon berger, le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne le brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est que mercenaire, et les brebis ne font pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette côté. C'est là aussi qu'il faut que je les conduise. Il écoutera ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie. Pour le recevoir comme lui. Nul ne peut me donner. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Au grand séminaire où j'ai grandi, où j'ai eu la formation pour devenir prêtre, à chaque année, nous les étudiants, les séminaristes, on jouait une pièce de théâtre. Et souvent, j'étais parmi les acteurs ces années-là. Une des choses que j'ai gardées, que j'ai retenues, une chose que vous connaissez très bien, c'est que l'arrière-scène est très importante. Parce que elle permet de comprendre dans quel environnement se déroule la scène. Si c'est durant la nuit, durant le jour, c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, l'arrière-scène est importante. Elle permet de comprendre vraiment ce qui se déroule. Je regarde la liturgie, l'année liturgique, surtout dans ce temps de Pâques. Premier dimanche de Pâques, c'était la fête de Pâques, on nous a parlé du Seigneur ressuscité, une des apparitions du Seigneur. Deuxième dimanche, c'était un autre récit qui parle aussi des apparitions du Seigneur. Troisième dimanche, mêmement. Le quatrième dimanche aujourd'hui, et le dimanche qui viendra, là on commence à nous parler de certaines figures, de certaines images qui nous renvoient à Jésus. Comme aujourd'hui, c'est l'image du bon pasteur. Mais attention, pour saisir l'image du bon pasteur, il faut tenir compte de l'arrière-scène. C'est quoi l'arrière-scène ? La résurrection de notre Seigneur. Alors la lumière du ressuscité nous permet de mieux comprendre, de mieux connaître le bon pasteur pour le saisir et comprendre sa vocation et sa mission pour l'humanité. Voyez-vous, le Seigneur Jésus est ressuscité pour vous et pour moi. La mort et la résurrection de Jésus, ça n'a pas été un événement individuel, c'est-à-dire de Jésus lui-même. Par contre, sa mort et sa résurrection nous affectent, nous influencent, vient nous chercher, vient nous saisir. En d'autres termes, la résurrection de Jésus est un événement cosmique. C'est une force qui nous saisit, qui nous relève. En fait, c'est une force qui s'adresse aux personnes qui croient en Dieu, qui l'accueillent. Alors, quand cette force-là nous saisit, nous prend, eh bien, elle nous transforme, elle nous change. Regardez ce qui s'est passé dans l'église primitive. D'abord, notre Seigneur, durant tout son ministère, il a guéri, il a enseigné, il a purifié les lépreux, il a nourri les foules. La résurrection est arrivée, l'ascension est arrivée, il est retourné au Père. Les apôtres ont continué la mission du Seigneur. Eux aussi ont guéri, ont nourri les foules et ils ont continué sa mission. C'est comme la lecture qu'on vient d'entendre. Ces jours-là, Pierre et Jean vont au temple. Et à l'entrée du temple, ils rencontrent un paralytique qui vont guérir. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La personne s'élève et la personne marche. Alors ils arrivent au temple. Maintenant, les chefs, les autorités juives sont mécontentes parce qu'ils continuent à guérir, ils continuent à parler de Jésus. Alors il dit, par quelle autorité avez-vous guéri cet homme-là? Il dit, c'est au nom de Jésus. La force de la résurrection a continué avec l'église primitive. C'est au nom de Jésus que les apôtres prêchaient. C'est au nom de Jésus que les apôtres guérissaient. C'est quoi ça le nom de Jésus? Dans la Bible, quand on parle du nom de, eh bien ça veut dire c'est l'identité de la personne, c'est toute la force de la personne, c'est toute la nature de la personne. Quand ils disent nous avons guéri cet homme-là au nom de Jésus, ça veut dire c'est à partir de tout son être, à partir de son amour, à partir de tout ce qu'il a été, qu'il est guéri. Voilà la signification du nom. C'est la puissance de Dieu, la puissance du ressuscité qui perpétue sa présence au sein de l'Église, qui se prolonge dans l'Église. Mes amis, cette même présence de la force de Dieu, de la force du ressuscité, n'a pas disparu. Elle continue à avoir effet dans notre Église d'aujourd'hui, effet dans le cœur des personnes qui s'ouvrent à elle. Les personnes qui accueillent le ressuscité sont transformées, changées. Si nous devenons à un moment donné esclaves de la colère, esclaves de la haine, on peut se tourner vers la puissance du ressuscité pour nous demander, pour lui demander de venir nous en libérer. Et si on est toute confiance, si on prie avec foi, si on s'ouvre à lui avec confiance, il va le faire. Sa force est actuelle aujourd'hui. Si on est pris dans les sentiments d'orgueil, dans la haine, si on se retourne tout le temps sur soi-même et qu'on ne sait comment s'en sortir et qu'on se tourne vers la force du ressuscité avec foi, cette force est encore actuelle aujourd'hui. Vous allez vous étonner comment elle peut vous changer, comment elle peut vous transfigurer. La force du ressuscité est actuelle, est encore présente dans l'Église d'aujourd'hui. Elle est présente dans les mains, dans la figure du bon pasteur. Si on est pris avec le matérialisme, l'individualisme, avec le consumérisme, eh bien, toujours dans notre faiblesse, si nous nous tournons vers la puissance du ressuscité, nous allons nous étonner comment il peut nous changer, nous transformer. Ce n'est pas tout. Quand on regarde de près l'évangile d'aujourd'hui qui nous parle du bon pasteur, eh bien, il dit que le bon pasteur, celui qui donne sa vie aux brebis, pour faire ressortir l'image du bon pasteur, on le met en opposition avec celle du mercenaire. Il y a Saint Augustin qui donne une belle image. Il dit, le berger mercenaire est celui qui, quand il a froid, il a besoin d'un manteau, il va se servir de ses brebis pour arracher la peau, apporter la laine de ses brebis. C'est ça le mercenaire, dit Saint Augustin. Le berger mercenaire est celui, quand il a faim, il est capable d'aller chercher la chair du mouton, des brebis pour manger, pour se nourrir. C'est le berger mercenaire. Le berger mercenaire est celui-là, quand la nuit vient, il garde le brebis, il voit le loup arriver, il peur de sa vie, il s'enfuit, il laisse les brebis être dévorés par le loup. C'est ça, le berger mercenaire. Si vous vous rappelez, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, il est dit ceci de David, avant de se battre contre Goliath. Alors le roi Saül lui dit, mais Goliath, il lui dit, écoute, Goliath c'est un géant, c'est le général de l'armée. Toi tu es jeune, David, comment est-ce que tu peux t'en sortir? Il dit, moi là, quand j'étais encore berger dans la famille de mon père, quand je gardais les brebis, il y a eu un lion qui a attaqué les brebis. Moi je me suis levé, je me suis battu contre le lion, j'ai tué le lion. Alors dit-il, le Seigneur qui m'a libéré du lion, ce sera le même Seigneur qui va me libérer de Goliath. l'image de David qui se défend pour protéger la vie de ses brebis, c'est la préfiguration de l'image du bon berger qui est Jésus. Alors le bon berger, contrairement aux mercenaires, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il meurt pour ses brebis, il se livre pour ses brebis, il est là pour le bien de ses brebis. Voilà l'image du bon pasteur. Le bon pasteur connaît ses brebis, non seulement les brebis en général, il connaît chacune de ses brebis, il connaît chacune par son nom. Et comme j'ai dit, le nom c'est qui? Le nom c'est tout moi-même, c'est tout mon être. Alors, le bon pasteur te connaît tel que tu es, tes aspirations, tes échecs, tes faiblesses, tes forces, il te connaît tel que tu es, le bon berger. Mais maintenant, si le bon berger nous connaît tel que nous sommes, et si on utilise encore le terme connaître dans le sens biblique, c'est-à-dire connaître, ça veut dire naître avec, ça veut dire être avec la personne, ça veut dire être dans l'intimité de la personne. En d'autres termes, c'est aimer la personne. Quand on dit que le bon pasteur connaît chacun, chacune d'entre nous, c'est que le bon pasteur aime vraiment chacun, chacune d'entre nous. Et comme je l'ai dit, il connaît en profondeur, il connaît le nombre de nos cheveux. Donc pour dire que là, il nous connaît vraiment et il sait ce dont on a besoin. Mais maintenant, quand on a accueilli le bon berger, quand on a compris qui il est, à ce moment-là, il faudrait répondre à son amour d'une manière adéquate. Comme lui meurt pour nous, qu'est-ce que nous faisons pour lui? Alors, en d'autres termes, quel type de brebis sommes-nous? Qui suis-je comme brebis? Quel type de brebis je suis par rapport au bon pasteur? Est-ce que je suis celui qui s'abandonne dans les mains du bon pasteur parce que je suis convaincu que le bon pasteur me connaît, que le bon pasteur va me guider, va me conduire vers le bon pâturage, vers le pâturage éternel parce qu'il me connaît du fond de mon cœur. Il connaît mes aspirations, alors voilà pourquoi je m'abandonne. Ou bien, je vais être le berger qui s'est dit, moi là, je veux dominer, je veux que je contrôle toute ma vie. Je veux contrôler tous les recoins de ma vie moi-même. Comme être humain, j'ai pas besoin d'autres bergers. Où je reconnais dans ma capacité intellectuelle, dans ma capacité humaine, j'ai la liberté que j'ai reçue de Dieu, mais dans cette liberté, je reconnais qu'il faut que je m'abandonne dans les mains de Dieu, qui va m'aider dans mes choix, qui va m'appuyer dans mes aspirations, qui va me montrer le chemin à suivre. Parce que je suis juste convaincu d'une chose, que le bon berger me connaît mieux que moi-même, il sait par où passer. Parce qu'il connaît le chemin. Des fois, nous sommes dans les ténèbres, nous ne voyons pas où il faut aller. Le bon berger sait quel sentier il faut prendre. Et si on lui fait confiance, même si des fois on ne comprend pas où on s'en va, mais du fait qu'on lui fait confiance, on s'est abandonné dans ses mains, on sait que lui connaît le chemin, alors on avance, on lui fait confiance. Ça, c'est la manière de répondre à l'appel du bon berger, du bon pasteur. S'abandonner totalement en lui faisant confiance parce que lui sait de quoi il s'agit, où on veut aller. La dernière partie de l'évangile, je l'ai trouvée aussi intéressante parce que cette dernière partie de l'évangile, eh bien, elle nous parle de brebis qui sont de l'autre enclos, dit le Seigneur. Comme pour dire, c'est vrai que le Seigneur nous a appelés, nous sommes fiers d'être chrétiens, d'être chrétiennes. C'est une grâce de Dieu que d'accueillir Jésus dans notre vie et d'avancer. Mais cet appel de Jésus qui rappelle qu'il n'est pas seulement pour cet enclos, qu'en fait son message s'adresse à tous les brebis qui ne sont pas de cet enclos, c'est pour reconnaître que l'évangile, le message d'espérance, le message d'amour que nous professons, auquel nous croyons, ce message-là est adressé à toute l'humanité. Que nous ne sommes pas appelés à prendre cette propension de nous enfermer entre nous et de rester comme vase clos. C'est nous les chrétiens, c'est à nous que le Christ appartient. On le entoure de nos bras, du tout. Le Seigneur, c'est vrai qu'il est, il nous a appelés, nous faisons partie de sa famille à 100%, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas une famille fermée. Nous sommes une famille ouverte au monde pour partager le message d'espérance, de paix, de joie que nous avons reçu du Seigneur. Parce que lui, il nous le dit, il n'est pas venu seulement pour un petit troupeau, il est venu pour toute l'humanité. C'est que dans notre vocation de chrétien, Nous sommes appelés à être de porteuses, de porteurs de la bonne nouvelle, pas seulement à nos voisins, pas seulement au Canada, mais nous sommes des témoins pour l'humanité. Voilà ce que ça veut dire. J'ai d'autres bébés qui ne sont pas de cet enclos. Que nous vivons avec des cœurs ouverts, avec l'esprit ouvert. Et nous voulons partager le message d'unité, le message de paix, le message de conversion, le message du don de soi au monde entier. Voilà, en fait, notre vocation chrétienne. Alors, toujours dans cet élan-là d'ouverture, eh bien, le quatrième dimanche, je le disais, eh bien, c'est un dimanche où on essaie d'insister sur la prière en vue d'obtenir des prêtres selon le cœur de Dieu. Alors, le prêtre selon le cœur de Dieu, c'est le prêtre normalement qui cherche le bien des brebis. C'est le prêtre normalement qui voudrait que le troupeau avance. C'est le prêtre normalement qui voudrait protéger le troupeau contre les erreurs, contre le loup. Qui cherche le bien des brebis, le bien du troupeau pour que les brebis s'épanouissent, grandissent, qui conduit les brebis vers le pâturage qui va les rendre fortes et de bonne santé. Voilà la prière dans toutes les églises, dans l'église universelle aujourd'hui, qui se tourne vers Dieu et qui lui demande de nous envoyer des pasteurs selon son cœur. Alors on va se ramasser. On va se tourner vers le Père en lui disant merci pour ces pasteurs qui nous ont envoyés. En même temps, nous allons demander à l'Esprit de travailler en nous pour que nous accueillions ces pasteurs en écoutant sa voix. Comme lui nous aime, nous voulons le connaître, nous voulons aussi l'aimer. Et notre manière de l'aimer, c'est nous laisser guider par lui avec conviction, en nous abandonnant dans ses bras, en sachant que lui, là où il nous conduit, c'est toujours vers le bien. Amen.